Oui, donc bonjour à tous. Soyez bénis. Soyons bénis ensemble. Merci pour ces moments de louange que le Seigneur a conduits et qui nous a déjà enrichis quelque part. Et au travers duquel, ce moment, nous avons pu dire à combien nous aimions notre Seigneur et à combien nous voulions réjouir son cœur de Père. Vous pensez que c'est ce qu'on a fait ce matin? Vous pensez qu'on a réjoui son cœur de Père? Alors, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu as mis en nous justement, qui nous permet aujourd'hui, vraiment lorsque nous tournons vers toi, de vouloir te réjouir et te rendre, Seigneur, une petite part, mais vraiment de tout ce que tu nous as donné. Alors je commencerai par une question ce matin. Votre cœur aspire-t-il à rencontrer Jésus, à l'entendre? Oui, super. Alors pour nous, rien de plus facile. Rien de plus facile. Car Jésus est la parole, il ne fait qu'un avec la parole. Il est donc tout proche de nous. Il est tout proche de nous. On ne peut pas être plus proche. Non ? On ne peut pas être plus proche. À nous d'aller le rencontrer dans la parole. Puisque la parole est là, à nous d'aller le rencontrer dans la parole. Car il s'agit bien d'une rencontre où nous pourrons l'entendre et l'écouter nous parler. Amen. Il attend donc que nous venions le rencontrer pour pouvoir nous parler. Si on ne va pas le rencontrer, il ne pourra pas nous parler. Vous pouvez parler à quelqu'un, vous, que vous n'allez pas rencontrer? Non. Ben là, c'est pareil. Vous ne pourrez pas l'entendre vous parler si vous n'allez pas le rencontrer. Alors, rien de plus simple, si ce n'est que de plonger nos regards dans la parole. Et c'est ce que nous allons faire ensemble ce matin. Vous êtes d'accord? Même si ça bouscule un peu? Eh bien, on y va. Prenons bien conscience que lorsque nous lisons et méditons la parole, c'est Jésus que nous rencontrons. C'est Jésus que nous parle. Et lorsque nous lirons ce qu'il y aura à l'écran, c'est Jésus que nous rencontrons et qui nous parle. Alors commençons par lire l'Épître de Jacques, chapitre 1. Tu as mis le... Voilà. Chapitre 1, du verset 18 au 25. Je vous le lis donc dans la version Parole vivante. Par un acte de sa libre volonté, il nous a fait naître de nouveau, par le moyen de la parole de vérité, pour que nous soyons, pour ainsi dire, les premiers fruits de sa nouvelle création. Vous savez tout cela, mes chers frères, ainsi que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, mais qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère, car ce n'est pas en se mettant en colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Accueillez d'un esprit humble et docile la parole implantée en vous, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. Seulement, ne vous bornez pas à l'écouter. Traduisez-la en actes, sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir. À peine est-il parti, qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu et qui devrait être mis en ordre. Par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite, la parole, qui donne la vraie liberté, et s'il l'étudie assidûment, s'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi, non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole. C'est l'inversion, parole vivante. Amen. On pourrait presque s'arrêter là. Il y a tellement de choses de dites dans cette parole. Alors, dans ce très beau texte, commence par nous rappeler cette grande vérité que nous sommes nés de nouveau par la volonté de Dieu, comme engendrés de lui, par la parole de vérité, engendrés de lui par la parole de vérité, faisant ainsi de nous les premiers fruits de sa nouvelle création. Waouh ! Moi, ça m'émerveille, ça. Et vous ? Non ? Vous n'êtes pas émerveillés quand vous entendez ça ? Quand le Seigneur vous parle ainsi ? Nous sommes nés de nouveau par la volonté de Dieu, engendrés de lui par la parole de vérité. Quand on a bien conscience de cela, nous ne pouvons que faire un immense honneur à celui qui nous a ainsi engendrés. En ne galvaudant pas cette précieuse parole qui nous a été donnée, en lui donnant dans nos vies toute la place qui lui revient. Amen. C'est pour cela que Jacques poursuit en nous disant à nous chrétiens, oui, à nous donc, nés de nouveau, hein, car il nous appelle ses chers frères, vous savez tout cela, mes chers frères, ainsi que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous. Vous remarquerez une chose, qu'il ne dit pas la parole qui vous a été donnée ou que vous avez reçue. Il va beaucoup plus loin que cela en disant la parole qui a été implantée en vous. La parole qui a été implantée en vous. Ça suppose quoi cela ? Eh bien que la parole est faite pour prendre racine en nous. Elle est faite pour prendre racine en nous. Amen. Pour se développer jusqu'à devenir une partie de nous-mêmes. Se développer jusqu'à devenir une partie de nous-mêmes. C'est ça que ça veut dire, implanter. Faire corps avec nous. C'est un vaste programme, n'est-ce pas ? Hein ? C'est bien plus que je vous ai donné la parole. Non, il veut que la parole soit implantée en nous. C'est tout à fait le contraire que d'une parole qui va entrer par une oreille et sortir par l'autre. Hein. Là, ce n'est pas très implanté, ça. Elle n'aura pas, si elle suit uniquement ce chemin-là, cette parole, elle n'aura aucun effet en nous. Par contre, si elle est implantée, alors elle pourra nous transformer. Elle nous transformera, nous façonnera. Plus que cela, elle nous protégera. Elle protégera notre âme des pièges de ce monde, de notre être charnel et du malin. Cela ne vous rappelle-t-il pas aussi une parole de Jésus qui dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». C'est Jean 15, verset 4. En quelque sorte, « Je m'implanterai en vous ». C'est donc pourquoi Jacques nous parle de la parole qui a été implantée en nous, c'est-à-dire destinée à prendre racine en nous. Et Jacques poursuit sa pensée en nous disant, pour que la parole puisse prendre racine en nous, seulement ne vous bornez pas à l'écouter. Seulement, ne vous bornez pas à l'écouter pour qu'elle puisse prendre racine. Traduisez-la en acte, sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir, un homme ou une femme. À peine est-il parti qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu et qui devrait être mis en ordre. Ce passage d'Écriture nous dit que la parole de Dieu est comme un miroir qui a le pouvoir de nous révéler qui nous sommes, mais qui plus est, elle nous révèle aussi ce que nous sommes appelés à être. Jacques nous dit bien que si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite, c'est-à-dire la parole de Dieu, s'il l'étudie assidûment, s'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché, un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole. Et la version Nouvelle Français Courant dit « sera heureux dans son activité ». C'est quand même admirable, ça. C'est une admirable promesse. Quand j'entends ça, je me dis, waouh, des promesses, Seigneur, c'est du solide. Hein. On peut s'appuyer dessus. Hein. Lorsque la parole nous montre ce que nous sommes, ce n'est pas pour nous culpabiliser, mais pour nous encourager et nous aider à rectifier ce qui doit l'être, si tel est le cas. À nous amener petit à petit à la ressemblance de notre modèle parfait, Jésus-Christ, afin que nous trouvions le bonheur et soyons heureux dans notre vie. Amen. Quelle promesse, hein ? Mais avant d'aller plus loin, je voudrais m'arrêter quelques instants sur quelques mots importants cités par Jacques. Il nous dit que ce bonheur est pour qui ? Pour celui qui scrute attentivement la parole, l'étudie assidûment, vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché. Ces mots sont très forts, hein ? Et sont chargés de sens, vous ne trouvez pas ? Ces mots ne font pas référence à un simple passage rapide, furtif devant le miroir. Mais à un passage où je vais prendre le temps d'examiner mon âme avec soin. Par rapport, bien sûr, à la parole de Dieu que je vais scruter. Scruter, c'est-à-dire rechercher ce qui est caché, fouiller, c'est ça scruter, hein, on va vraiment dans le détail, hein, et qui mettra en lumière l'état de mon âme dans ce miroir qu'est la parole. Il nous dit aussi, ne vous bornez pas à l'écouter. Traduisez-la en acte. Sans quoi, vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. Ne vous bornez pas à l'écouter. Traduisez-la en acte. Sans quoi, hein, c'est là. Sans quoi, vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. C'est un mot très fort, là, hein. Et également chargé de sens, l'illusion. L'illusion, c'est ce que pratique l'illusionniste. Non ? Dans quel but ? L'illusionniste, il pratique l'illusion. Dans le but de manipuler les choses pour nous faire croire ce qui n'est pas. Ça ne nous fait pas penser à quelqu'un, cela ? L'ennemi de nos âmes, par exemple, le grand manipulateur, le père du mensonge. Donc, quand Jacques nous parle de risquer de nous faire illusion sur nous-mêmes, si nous ne traduisons pas la parole en acte, c'est risquer de finir par croire des choses qui sont fausses et de nous faire manipuler par notre ennemi. Ceci dit, revenons à notre miroir. Dans la vie courante, quand nous nous regardons dans un miroir, c'est pour vérifier que notre apparence et notre tenue sont bien, n'est-ce pas ? Bon. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait ? Nous faisons tout ce qui est nécessaire pour que notre apparence soit la plus correcte possible. Non ? Non ? Oui, c'est mon cas, c'est peut-être pas le vôtre. Et nous viendrait-il à l'idée de commencer la journée et de sortir sans passer devant le miroir et faire au minimum un brin de toilette, à votre avis ? Je me suis dit, il y en a sûrement qui vont dire ça marche. Mais par exemple, ce matin, à ce que je vois, tout le monde semble être passé devant le miroir. Et a fait ce qu'il fallait pour arriver ici avec une présentation correcte. Super. Pour nous, c'est naturel, ou presque naturel. Et ça, nous le faisons chaque matin. Chaque matin. Mais est-ce que nous prenons aussi chaque matin le même soin de notre âme que celui que nous prenons de notre corps ? Est-ce que nous scrutons attentivement notre âme comme nous scrutons attentivement notre visage ? Pour notre corps, on fait tout ce qu'il faut. Quand on se dit que sinon, tout le monde verra le regard des autres. Mais pour notre âme, que se dit-on ? Que personne ne verra. Tranquille. Que ça ne changera finalement pas grand-chose à notre journée. Si nous ne sommes pas passés devant le miroir de la parole. Ah bon ? Eh bien, détrompez-vous, parce que déjà, Dieu le voit. Amen. Et qui plus est, notre comportement dans la journée ne sera probablement pas le même si nous avons pris soin de passer un moment avec Dieu le matin ou pas, avant d'affronter notre journée. Personnellement, j'en fais malheureusement de temps en temps l'expérience. Lorsque j'ai des loupés le matin, ce qui m'arrive, comme probablement à quelques-uns d'entre vous, un rendez-vous de bonne heure, une journée chargée en perspective, on démarre à fond les manettes, comme on dit. Je serai le seul dans ce cas-là ? Non ? Alors quand, les soirs de ces jours-là, je fais le point de ma journée, je constate souvent qu'à tel moment de la journée, mon comportement n'a pas été au top. Ce qui me désole, et j'en demande pardon à Dieu, ce qu'il fait avec beaucoup d'amour, merci Seigneur. Mais sans oublier de me rappeler, lui avec beaucoup d'humour, « Au fait, je t'ai pas vu ce matin. ou c'était en coup de vent que je t'ai vu. C'était vraiment du rapide, hein. Tu m'as oublié? Tu m'as semblé bien pressé. Qu'est-ce que tu avais à faire? Vous savez, dans la Bible, nous avons de nombreux exemples de personnes qui se levaient de bon matin pour rencontrer l'Éternel. Pratiquement tous les serviteurs de Dieu mentionnés dans la Bible se levaient de bon matin. En voici quelques-uns. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Genèse 19, 27. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne. Exode 24, 4. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans la maison à Rama, 1 Samuel 1,19. Et il y en a de nombreux exemples comme ça dans la parole. Hein. De nombreux exemples. Ainsi, on l'a vu en est-il d'Abraham, de Jacob, de Moïse, de Josué, de Samuel, de David, des apôtres. Et je termine. Parfait. Jésus lui-même se levait de bon matin, le matin, avant de commencer sa journée, il se retirait pour prier, la parole nous le dit, rencontrer son Père, prendre vers lui ses précieux conseils, vers le Père, les paroles qu'il aurait à proclamer dans la journée, il pouvait dire ensuite, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » C'est dans Jean 17, verset 8. De même, la manne, le pain d'Éternel, nourriture des Hébreux lorsqu'ils étaient dans le désert, se ramassait tôt le matin, avant le lever du soleil même. Car lorsque le soleil se levait, dit la parole, sa chaleur la faisait fondre. Exode 16, 21. Ne pensons donc pas que d'aller rencontrer le Père, notre Père, dès le matin, est un sujet sans importance. La Bible le rappelle tellement de fois. C'est à ce moment-là que Dieu nous donne un rendez-vous pour préparer et nourrir notre âme avant d'affronter le monde et ses pièges. David, le psalmiste, dit ah, tu peux passer, voilà. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Fais-moi dès le matin, encore, entendre ta bonté. Car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Psaume 143, 8, 10, 8 à 10. Fais-moi dès le matin. Vous vous rendez compte ce que dit David là? Là aussi, donc, ces paroles sont d'une immense profondeur. Hein. Vous ne trouvez pas? Et c'est ainsi que David priait, dès le matin, pour préparer sa journée. Il dit, « J'élève à toi mon âme. Enseigne-moi ta volonté, dès le matin. En quelque sorte, je te présente mon âme devant le miroir de ta parole, volonté de Dieu, et parle-moi. Enseigne-moi à faire ta volonté. Parle-moi, Seigneur. » Et lui, David, ne se bornait pas simplement à écouter la parole de Dieu, au risque de faire illusion sur lui-même, comme le dit Jacques. Non. David, quand il se tournait vers Dieu, disait aussi, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Psaume 69, 23, 24. En quelque sorte, David disait, « Je veux que ta parole, miroir dans lequel je plonge mes regards, me renvoie vraiment qui je suis, sur quel chemin je suis, surtout si ce n'est pas le bon, et que tu me conduis sur la bonne voie, la seule que je souhaite ardemment. » Amen. Quelle parole et quelle humilité de la part de David. Prêt à reconnaître si quelque chose n'allait pas en lui et dans sa relation avec Dieu. N'est-ce pas un superbe exemple chaque matin pour nous approcher de Dieu? C'est tout de même pas mal de commencer la journée comme ça. Fais-moi entendre ta bonté, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, sonde-moi, éprouve-moi, connais mon cœur et mes pensées, regarde si je suis sur la mauvaise voie, conduis-moi sur la bonne voie, car aujourd'hui, je ne veux pas m'égarer, disait David. Et ce ne sont pas les seules paroles de la Bible comme celle-ci. Il y en a bien d'autres que vous pourrez découvrir, scruter et faire vôtre. Ce qui importe, c'est que chacun trouve son cheminement pour aller à la rencontre de Jésus. Et ainsi, comme David, plonger chaque matin ses regards dans la parole, le miroir pour notre âme. Alors, quand je vais à la rencontre de Jésus, au travers de la parole, le miroir pour notre âme, je le rappelle, et que je suis bien à l'écoute, parce que si je ne suis pas à l'écoute, cette parole va certainement me montrer l'état de mon cœur, qui peut bien entendu être bon. Cette parole va aussi peut-être m'encourager, peut-être m'exhorter, peut-être me rappeler à l'ordre, peut-être me montrer s'il doit être transformé dans ma façon de penser, ou dans mon comportement, dans mon cheminement. Alors quelle va être ma réaction? En d'autres termes, qu'est-ce que je vais répondre à Dieu après lui avoir demandé de me sonder, de me dire si mes pensées et mes voix sont bonnes ou pas, et qu'il va me montrer par la parole la façon dont il me voit, ce qui est éventuellement à modifier en moi, voir ce qu'il désapprouve. Vais-je, comme le demande Jacques, accueillir dans un esprit humble et docile la parole que Dieu veut implanter en moi, c'est-à-dire veut voir prendre racine en moi. Alors Dieu me dira peut-être, durant ces moments, si tout va bien, c'est bien, bon et fidèle serviteur, comme dans Matthieu 25, 23. Dans ce cas, c'est top, Moi, je suis preneur. Quel bel encouragement. Je ne pourrais que lui répondre, merci Seigneur et gloire à toi, car tout vient de toi. Si tout va bien, c'est que tout vient de toi. Par contre, si sa parole me montre un point à améliorer, à transformer, ou quelque chose à abandonner? Ma réponse pourra être, ok Seigneur, ok, j'ai compris. Je te remercie de ce que tu me montres. Et je suis prêt à me laisser transformer ou à abandonner cela. Mais seul, j'y arriverai pas. Ou j'y arriverai peut-être pas. Alors, Saint-Esprit, viens à mon aide. Là, on sera aussi sur le bon chemin, avec un esprit humble et docile. Mais notre réponse pourra aussi être, écoute Seigneur, je suis comme ça, hein, tu sais. J'aurais du mal à changer. Hein. Je suis né ainsi. Cette famille. Mon père et ma mère étaient comme ça. C'est ma nature. Je suis sûr que tu comprends. Car tu es un Dieu d'amour. Tu me pardonneras. Êtes-vous sûr qu'il va voir les choses comme cela? Ça pourra être aussi une réponse plus frontale encore. Comme par exemple, ça, non, je ne peux pas. Ne me demande pas cela. Je ne peux pas. Ou même, je ne veux pas. Comment pensez-vous que le Seigneur va apprécier cette réponse? Ça pourrait être aussi une réponse plus nuancée. Comme par exemple, sur ce point-là, Seigneur, je suis d'accord. Là, je suis d'accord avec ta parole. Sur ce point-là. Mais sur cet autre point, je ne suis pas trop d'accord. C'est quelque sorte retenir de la parole ce qui nous arrange et ne pas tenir compte de ce qui nous dérange. C'est quelque part se faire sa propre religion. Ça pourra être aussi une réponse plus subtile encore. Comme par exemple, mais ai-je bien compris? Ta parole dit-elle vraiment cela? En cherchant à la faire coller à la façon dont on vit ou dont on voit les choses, plutôt que de faire coller notre vie à la parole. Celle-là aussi se fait à sa propre religion. Vous vous souvenez? Ça a commencé comme ça dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il vraiment dit? Et la méthode de l'ennemi, de nos âmes, n'a pas changé. Il reste toujours le même. L'illusionniste. Soyons très vigilants. On se croit parfois plus fort que l'on est. Soyons très vigilants. Et je termine, ça pourrait être aussi une réponse d'adhésion, mais temporelle. Le Seigneur, je reconnais que c'est vrai. Super. T'as mis le doigt où il fallait. Waouh. Et puis, la Bible refermée, la porte passée, retourner à nos habitudes, oublier ce que Dieu m'a montré. N'est-ce pas parfois notre tendance naturelle à vite oublier ce que nous avons entendu? Et il y a bien d'autres situations. Dans ces 5 derniers cas que nous venons de voir, ne serait-ce pas se faire illusion sur nous-mêmes, comme le dit Jacques? Et cela ne nous rappelle-t-il pas aussi la parabole du semeur? Vous vous rappelez? Un semeur lance des graines, représentant la parole, elle tombe dans toutes sortes de terrains, représentant l'état du cœur où la parole est semée. Les terrains, au bord du chemin. Les oiseaux mangent les graines. Ici, la parole n'a aucun effet. Dans les endroits pierreux, il n'y avait pas beaucoup de terre. Les graines ont levé rapidement. Waouh, super! Mais avant de se dessécher, ici la parole est rapidement oubliée. Dans les épines, Les épines ont étouffé les graines. Ici, la vie quotidienne, l'esprit du monde, prend le dessus sur la parole et vient étouffer. Enfin, dans la bonne terre, les graines se sont multipliées. Ici, la parole est mise en pratique et produit son action. N'est-ce pas quelque part ce que dit Jacques ? Si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, c'est exactement ce qu'on vient de lire dans la parabole du semeur, hein, il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir, à peine est-il parti, à peine est-il sorti de la salle, de l'église, alors ça c'est moi qui l'ai rajouté, hein. C'était pas dans la Bible ça, c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses. À peine est-il sorti de la salle, de l'église, ou a-t-il refermé sa Bible, qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu ou entendu. C'est l'exemple des endroits pierreux ou épineux. Par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite, qui donne la vraie liberté, et s'il l'étudie assidûment, s'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché, il en arrive à agir d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole. Celui-là sera heureux dans son activité. On l'a lu plusieurs fois ce matin, mais c'est tellement important. C'est tellement riche. Alors, quelle est aujourd'hui la nature du terrain de notre âme ? Prend-on toujours la mesure de l'importance de la parole de Dieu qui est esprit et vie ? Ne reste-t-on pas parfois superficiel ? Et je fais partie parfois de cela. Ne se fait-on pas une idée d'un Dieu tolérant qui, par amour, ne va peut-être pas toujours faire ce qu'il dit ? Par amour. Alors, dans ces moments-là, le Seigneur me rappelle à l'ordre en me disant « Mais tu connais celui à qui tu parles ? Tu sais celui à qui tu parles ? Je suis le Tout-Puissant, comme nous l'avons chanté ce matin, le plus grand. Vous savez, aujourd'hui, la notion de tolérance a souvent remplacé la notion de vérité. À chacun sa vérité, comme on dit. L'essentiel, c'est d'être sincère, comme certains disent pour se rassurer. Mais non, non, Jésus balaye ce genre de raisonnement avec l'affirmation suivante, celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. Jean 18, 37. Si nous ne restons pas attaché à la parole de Dieu, si nous ne la scrutons pas, comme Jacques nous y exhorte, nous nous éloignerons de plus en plus de la vérité, insensiblement. Vous savez, c'est comme cette grenouille qu'on met dans l'eau, où on fait chauffer l'eau tout doucement. C'est insensible pour elle. Jusqu'au moment où l'eau est tellement chaude que la grenouille... sans même nous en rendre compte, c'est le but obstiné et subtil donc, de l'ennemi de nos âmes, l'illusionniste, le père du mensonge. Et Paul nous rappelle bien à Timothée, donc à nous, toutes les vertus de la parole de Dieu, celles qui sont douces à nos oreilles, mais aussi celles qui peuvent l'être moins. Car toute l'Écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. Amen. C'est pourquoi elle est utile, cette parole, pour nous enseigner la vérité. Amen. Nous en persuader. Amen. Pour apprendre à nous connaître. Amen. Pour nous convaincre de péché. Amen. pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. 2 Timothée 3,16, que j'ai pris dans la parole vivante. Et Paul poursuit en disant, « Ainsi, toute parole qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée, toute personne, c'est ça, qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée et équipée pour bien agir à tous égards. » Donc, c'est dans la version Nouvelle Français Courant. C'est tout de même super et encourageant cela. Même si c'est parfois dérangeant, que quand il nous dit la parole, elle est aussi pour réfuter les erreurs, rectifier nos pensées, réformer notre conduite. C'est parfois dérangeant, ça. Le miroir nous renvoie des choses, parfois... Mais tout y est, dans la parole. Alors ne nous en privons pas. D'où l'importance d'une rencontre régulière avec Jésus au travers de la parole. Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours. Et nous ne serions pas avec lui chaque jour? Alors bien sûr, comme nous le dit Paul, la parole pourra nous montrer toute la puissance et l'amour de Dieu, nous encourager, nous enseigner, parfait. Ça, on aime bien, on l'accepte facilement, c'est agréable à entendre. Mais au travers de l'enseignement de la vérité, la parole pourra aussi vouloir mettre le doigt sur notre péché, réfuter nos erreurs, rectifier nos pensées, réformer notre conduite. Là, parfois on aime moins. C'est parfois plus difficile à accepter. Ça peut remettre en cause la perception que l'on avait de nous-mêmes ou que l'on a de nous-mêmes. Mais c'est là que la parole de Jacques prend toute sa dimension quand il dit, je le rappelle, accueillez la parole avec un esprit humble et docile, ne vous bornez pas à l'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. Alors, pour être pratique, prenons quelques exemples de paroles agréables qu'on aime bien entendre et de paroles plus fermes qui peuvent nous bousculer. Et on va les prendre sur un même thème. Par exemple, celui de la prière. Des paroles agréables, d'autres qui seront peut-être un peu moins, mais toutes sont faites pour nous former, nous transformer. Amen. Alors donc, sur la prière, commençons par ce qu'on aime bien entendre. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. On aime bien, hein? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. C'est doux à nos oreilles aussi, ça. Non? Ah oui, non? Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, 14. Wow. Merci Seigneur pour ces bonnes paroles, ces promesses sur lesquelles je peux m'appuyer. Mais Jean dit aussi. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, alors il nous écoute. 1 Jean 14, 15. Ah! Il y a une condition. Selon sa volonté. Y prête-t-on bien attention? En tient-on toujours compte? selon sa volonté, qui est une condition majeure. Jean poursuit. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jean 9, 31. Ah, ça commence à piquer là. Ai-je bien regardé mon miroir ? Seigneur, as-tu vraiment dit ? Et puis, Ésaïe 59.1. En réalité, ce sont vos fautes qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui le poussent à tourner la tête pour ne pas vous écouter. Dans la version Nouvelle Français Courant. Là, ça bouscule. Dieu pourrait ne pas nous écouter ? Dieu pourrait tourner la tête ? Bien entendu, la parole parle ici de péché qui n'aurait pas fait l'objet de repentance ou d'abandon. Et d'abandon. Quelle est notre réaction quand Dieu met le doigt sur un péché non abandonné ? Ou une situation qu'il désapprouve ? Est-ce « Dieu a-t-il vraiment dit ?» comme dans le jardin d'Éden, ou comme David, que ton esprit me conduise sur la voie droite. Réforme mes voies, Seigneur. Et notez bien, et je termine, que dans tous ces cas, Dieu ne s'adresse pas à des païens, mais à son peuple. Peuple élu, juif ou racheté, nous. La parole de Dieu est un tout indissociable dans laquelle nous ne pouvons pas nous retenir que ce qui nous convient. Dieu est amour parfait et justice parfaite. Son amour parfait ne remettra jamais en cause sa parole parfaite, car il est justice parfaite. On ne peut pas en retenir une partie et en rejeter une autre à notre convenance. C'est pourquoi Dieu ne nous cache rien sur la façon dont il veut que nous vivions. C'est tout de même extraordinaire. Il nous dit tout. C'est pour cela que Jacques nous exhorte à scruter la parole attentivement. Et à l'accueillir dans sa totalité, dans un esprit humble et docile. Alors, je rappelle l'exhortation de Jacques. Si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir. À peine est-il parti, qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu. Si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite qui donne la vraie liberté, et s'il l'étudie assidûment, s'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi, non à écouter pour oublier, mais par agir d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole, sera heureux dans son activité. Même si les circonstances sont parfois difficiles, et je suis d'accord, les circonstances sont parfois difficiles. Job, par exemple, qui lui n'a pas eu une vie facile, hein. Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Job 23,12. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. C'est beau cela, hein. Alors je terminerai. Par cette belle parole du psalmiste, tes paroles sont merveilleuses. C'est pourquoi mon âme les garde. Version Colombe. Tes exigences sont des merveilles. Aussi je m'y conforme. Version Tob. Psaume 119, 129. C'est superbe, ça, comme parole. Alors, n'hésitons pas à utiliser sans réserve et avec humilité le miroir de notre âme qu'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous as donné de partager ensemble, ces moments de partage de ta parole Seigneur, et pour la façon dont tu nous enseignes. Merci mon Dieu, que ton esprit nous conduise et nous guide, à, comme le demande l'apôtre Jacques Seigneur, à l'accueillir avec humilité, docilité, afin qu'elle s'implante en nous Seigneur, et qu'elle fasse corps avec nous. Que toute la gloire te revienne mon Dieu. Amen.